Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Et effectivement, félicitations à Amandine Bégaud, puisque cette tranche 12h30, 13h est en forte augmentation depuis votre arrivée, Amandine. Bravo à vous.
Merci beaucoup, Pascal. Mais c'est le résultat du travail de nous tous, de toute la rédaction, toutes les équipes techniques et bien sûr des auditeurs qui nous écoutent. Donc, chaque midi, merci à tous. À la une, aujourd'hui, les nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. L'inquiétude des salariés d'Ascoval et puis le patron du tennis féminin mondial qui tape du poing sur la table après la disparition de cette joueuse chinoise.
On reviendra évidemment dans nos deux débats sur cette crise qui secoue Ascoval avec Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise qui en appelle au gouvernement. Et puis on parlera également de du harcèlement à l'école. Faut-il pénaliser le harcèlement à l'école? C'est ce que propose un député Modem.
Notre question du jour sur RTL.fr, justement, harcèlement scolaire, faut-il systématiquement alerter la justice? Oui, vous dites oui, massivement à 81%. Notre météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Et enfin, ça y est, on aperçoit un peu de soleil.
Ah oui, ça fait du bien. Alors c'est même bien ensoleillé dans le sud avec du vent. Les nuages se morcellent sur l'ensemble du pays, laissent passer quelques éclaircies et sont plus timides. Les éclaircies sont plus larges vers l'Atlantique en allant vers le pays nantais et l'Île-de-France. Tout ça sous des températures généralement comprises entre 9 et 13 degrés jusqu'à 20 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Mais d'abord, pour commencer cette histoire complètement surréaliste, des footballeuses contraintes de disputer la Coupe de France en culotte, oui, en culotte, faute de short. C'est ce qui arrive aux joueuses de Rennes et de Brest qui doivent s'affronter samedi, Gauthier Delambugard.
Oui, les joueuses viennent tout juste de recevoir les équipements fournis pour ce match par la Fédération Française de Foot. Mais il n'y a ni short, ni chaussettes dans les cartons. Manon Tessier est la capitaine de l'équipe féminine du Cercle Paul Bert de Rennes.
On reçoit une dotation par la fédération quand on se qualifie en Coupe de France à partir d'un certain tour. Et les garçons reçoivent maillot, short, chaussettes et les filles que le maillot. Donc on reçoit Brest samedi soir à 18h30. Donc on a décidé de faire une petite photo juste avec le maillot, donc sans short, sans chaussettes, pour marquer le coup. Peut-être, si possible, aussi l'équipe adverse, le Stade Brestois. Sinon, on va demander aussi à l'arbitre si ça sera possible de faire le protocole d'entrée, donc l'entrée des joueuses, avec juste le maillot pour à nous dénoncer cette petite inégalité qui reste encore, en tout cas sur la dotation.
En mars dernier, les Rennaises s'étaient déjà entraînées en culotte pour dénoncer ces inégalités hommes-femmes dans le foot. À l'époque, la fédération avait réagi en disant qu'elle se pencherait sur la question des équipements. Depuis, silence radio. Les footballeuses espèrent cette fois-ci être entendues. Début de la rencontre, samedi 18h30, à la plaine des Jeux de Bréquigny.
Gauthier Delambugard pour RTL. Symbolique, certes, mais c'est souvent dans la matière une histoire de symbole. Vous êtes d'accord, Pascal?
Mais c'est pas symbolique. Il n'est pas normal que les femmes ne soient pas dotées des mêmes équipements que les garçons. Et vous avez parfaitement raison.
L'actualité, c'est aussi la lutte contre le harcèlement scolaire. Emmanuel Macron annonce une série de mesures contre ce fléau qui touche, on le rappelle, un enfant sur 10. Plus de contrôle parental pour les écrans. Une nouvelle application aussi pour aider les victimes à dénoncer les faits.
Le harcèlement sévit toujours à l'école, sur les réseaux sociaux, sans laisser aucun moment de répit à ceux qui en sont victimes. Il crée la souffrance, conduit parfois au drame que nous avons encore vécu il y a quelques semaines, c'est-à-dire le suicide de jeunes enfants tués par le harcèlement. Alors je veux dire à tous ces jeunes, nous sommes de votre côté. L'école, les familles, les copains de classe. Nous devons tous être vigilants pour voir le harcèlement chez nos enfants, les encourager à en parler et ne jamais les abandonner.
Emmanuel Macron qui souhaite s'inspirer en la matière du modèle finlandais. Pierre Herbulot, vous vous êtes rendu sur place pour RTL.
Oui, sur les terres du programme Kiva, appliqué dans près de 9 écoles finlandaises sur 10 et qui fait chuter de moitié les cas de harcèlement. La méthode repose avant tout sur la prévention, raconte Päivi Viljama, la directrice de l'école Rajakula en banlieue d'Helsinki.
Pour prévenir le harcèlement, on enseigne régulièrement ce qu'on appelle les compétences sociales, les émotions et surtout l'interaction. Pourquoi on est triste, pourquoi on est en colère, comment réagir, comment se sentir mieux. Ce sont des choses qui s'apprennent. On fait ce type de cours tous les 15 jours. Comme ça, on est sûr que tout le monde apprend la même chose en même temps.
Des leçons accompagnées de cas pratiques pour reconnaître des situations de harcèlement. harcèlement, sur des jeux de cartes pour les plus jeunes, des films ou des jeux vidéo ensuite. C'est ce type de cours qui a tapé dans l'œil de Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire.
Je vais revenir de ce voyage officiel avec ces idées, ces propositions. Là, il faut vraiment qu'on ait des actions fortes et immédiates.
Comme cette formation aux réseaux sociaux promise ce matin par Emmanuel Macron pour lutter contre le cyberharcèlement et qui existe déjà en Finlande.
Reportage signé Pierre Herbulot pour RTL.
On en vient présent au Covid et le nombre de non-vaccinés hospitalisés qui continue de progresser.
On va faire le point sur les tout derniers chiffres dans un instant. Avant cela, un témoignage, celui de Vitaly, 35 ans, admis à l'hôpital d'Argenteuil la semaine dernière.
C'est très dur. Je regrette de pas m'avoir vacciné.
Je pensais que c'était pas pour lui, que c'était pour les autres. Comme il était jeune et en bonne santé, il pouvait pas faire une forme grave.
Je regrette de ne pas m'être fait vacciner, hein, dit ce patient de 35 ans, des propos recueillis pour RTL par Valentin Boisset. Bonjour Agathe Landé.
Bonjour.
Le cas de ce patient n'est pas un cas isolé.
Non, car les personnes non vaccinées représentent toujours la majorité des cas à l'hôpital. Selon une étude publiée cette semaine par l'Adresse, la cellule statistique du ministère de la Santé, il y a 9 fois plus d'entrées en réanimation et 9 fois plus de décès parmi les non vaccinés. C'est aussi vrai du côté des contaminations, avec 4 fois plus de tests positifs chez les non vaccinés. Fin octobre, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants, était de 155 pour les non-vaccinés contre 38 pour les vaccinés. Enfin, selon Santé publique France, la vaccination a très clairement fait chuter les hospitalisations, moins 29% chez les plus de 75 ans et moins 68% chez les 50-64 ans.
Merci Agathe. Agathe Landé pour ces explications. On rappelle qu'Olivier Véran sera ce soir dès 18h l'invité d'RTL Soir avec Julien Cellier, vous pourrez lui poser vos questions au ministre de la Santé au 3210, bien sûr.
Dans le Nord, ce nouveau coup dur pour les salariés de l'acierie Ascoval.
La direction envisage de délocaliser 40% de sa production en Allemagne sur des sites plus polluants mais moins coûteux. Officiellement, il ne s'agit que d'une option, mais sur place, forcément, l'inquiétude est bien réelle, Franck Hanson.
Oui, alors que la Syrie a son carnet de commandes plein, c'est une nouvelle menace pour ses 300 ouvriers. Le site valenciennois a été pourtant cité en exemple par le gouvernement pour ses performances écologiques. Nicolas Letellier est délégué CGT à Ascoval.
À 48 heures de la fermeture de la COP26, on est en train de nous dire qu'on va délocaliser 40% de notre production sur une filière au fourneau, 10 fois plus polluante que la nôtre. On pensait que Schertal, c'était un groupe industriel allemand qui avait les reins assez solides. Dès le premier coup dur avec cette hausse de l'électricité, il nous dit « bon bah non, moi je peux pas et je rapatrie tout chez moi, on peut pas laisser faire ça ».
De l'activité en moins, c'est clairement leur emploi qui pourrait être pénalisé pour ces salariés qui espèrent que l'État tiendra ses engagements, confie Sébastien Bourgard, magasinier.
Ma crainte, c'est perte de salaire, perte de prime, oui, et puis comment on va être payé si chômage partiel. Alors aujourd'hui, on fait appel au gouvernement, il faut qu'il descende nous voir et puis nous rencontre. Quoi, absolument. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Toujours en fin d'année, ça arrive des mauvaises nouvelles. La vie de famille, elle prend un coup aussi, encore une fois, aujourd'hui.
Et ces ouvriers à Ascoval n'hésitent pas à lancer une invitation au président Macron, qui sera dans le Nord demain, pas très loin de Saint-Solve.
Franck Hanson sur place donc à la Syrie d'Ascoval pour RTL. C'est aujourd'hui le Duo Day, une journée pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap. Partout en France, elles sont des milliers à partager le quotidien de salariés, du public ou du privé. Et ici, nous, à RTL, Marie Kerlidou a suivi toute la matinée la préparation de ce RTL Midi. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en la matière en France ?
Alors, trois chiffres marquants. Aujourd'hui en France, il y a 2,7 millions de personnes qui sont reconnues comme travailleurs handicapés. Sur ces près de 3 millions, seuls 955 000 travaillent, soit une personne sur trois. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est par ailleurs beaucoup plus élevé, 16% contre 8% pour l'ensemble de la population active. Élément encourageant, ce taux a diminué de 2,2% en 2020 et il ne s'est pas dégradé significativement pendant la crise sanitaire. En revanche, les personnes en situation de handicap sont bien plus touchées par le chômage de longue durée. Elles mettent en moyenne 7 mois et demi pour retrouver un travail. C'est presque deux fois plus que pour une personne sans handicap.
Marie, toutes ces difficultés, vous les avez vécues, vous les vivez au quotidien ?
Tout à fait. En fait, moi, je suis atteinte de la maladie des os de verre. Donc, j'ai eu un parcours assez classique, je dirais, en termes scolaires. Donc, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait toutes mes études en alternance pour pouvoir me donner toutes les chances d'être embauchée rapidement. J'ai eu énormément de lettres de recommandation de mes anciens employeurs également. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de candidatures. J'ai été confrontée à pas mal de refus qui sont notamment liés à...
3000 lettres de candidature.
Voilà, 3000 lettres de candidature depuis 2016, en comprenant les alternances, les stages et les emplois, notamment liés à la fonction d'encadrement. En fait, on demande quelqu'un qui soit fort physiquement, parce que la peur, elle est assez ancrée finalement. Et puis, du coup, ben oui, on est confronté en fait à ça. Et moi, du coup, ça m'a donné envie de me changer complètement d'orientation professionnelle, de devenir journaliste et puis de pouvoir éventuellement faire changer un peu les choses.
Et là, justement, c'est cette reconversion que vous êtes en train d'avancer. Juste d'un mot, d'après vous, c'est quoi la solution? Les quotas, par exemple, ça fonctionne, ça fonctionne pas?
Les quotas, ça fonctionne, mais c'est un minimum. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Donc, ça passera avant tout par un changement des mentalités.
Bon, bah, en tout cas, belle réaction. Et cite Marie, puisque c'était votre premier papier radio, comme
c'est
on
ça.
Dit. Pas mal.
Merci
qui était très réussi.
C'est très gentil.
Merci beaucoup Marie. On part à présent à la frontière biélorusse où la situation reste toujours très tendue. La Pologne annonce avoir arrêté une centaine de migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe la nuit dernière et dans le même temps, un premier vol de rapatriement doit quitter Minsk aujourd'hui, Nicolas Burnand.
Oui, ce premier avion doit rejoindre Bagdad dans la journée. Il est rempli de quelques centaines de migrants irakiens originaires pour la plupart de la région autonome du Kurdistan. Tous sont volontaires selon les autorités. Ils ont souvent vendu tout ce qu'ils possédaient pour tenter de rejoindre l'Europe. Mais peu d'Irakiens seraient en réalité candidats au retour, explique Dorota Novok. Elle est membre d'une fondation qui vient en aide aux migrants à la frontière.
Ces réfugiés sont utilisés comme une arme d'un jeu politique. Il est important de comprendre que ces personnes sont dans une telle situation de désespoir qu'elles sont parfois forcées de faire des choses. Il y a beaucoup de migrants irakiens qui nous appellent en nous disant qu'ils ne veulent pas rentrer car ils ne sont pas en sécurité dans leur pays. Ils ont peur. Ce n'est pas la solution. Ils préfèrent passer en Europe de manière illégale que de rester en Biélorussie. C'est horrible.
Les liaisons aériennes entre Bagdad et Minsk sont suspendues depuis l'été. Les Irakiens, les Syriens et les Yéménites ne sont plus autorisés à prendre l'avion depuis la Turquie pour rejoindre la Biélorussie. Mais certains migrants continuent de s'y rendre sur des vols indirects en passant par le Qatar ou l'Égypte.
Nicolas Burnand, merci à vous pour ces explications. Autre dossier ô combien sensible, c'est celui de cette joueuse de tennis chinoise disparue depuis le 2 novembre, depuis qu'elle a accusé le vice-premier ministre d'agression sexuelle. Elle aurait posté un message hier sur les réseaux sociaux, mais personne n'y croit, Isabelle Langer.
C'est le cas de Steve Simon, le patron de la WTA, le circuit professionnel féminin. Il n'est absolument pas convaincu par le courriel attribué à Peng Shuai dans lequel elle dit qu'elle n'est ni disparue ni en danger, qu'elle était en repos chez elle, que tout va bien, que les informations concernant l'agression sexuelle sont fausses. Simon tape même du poing sur la table. Il demande des preuves indépendantes et vérifiables, qu'elle est bien en sécurité, des paroles non censurées ni dictées. Il raconte qu'il a essayé à plusieurs reprises de la joindre via de nombreuses formes de communication, en vain. Mais le boss de la WTA va encore plus loin puisqu'il menace de retirer de Chine tous les tournois du circuit si les instances dirigeantes du pays ne se conforment pas à la loi. Une décision qui ne serait pas sans conséquence pour la WTA dont le marché chinois est important d'un point de vue économique. 11 tournois au programme et surtout, Ikii est l'un des 4 sponsors principaux du circuit féminin. Ce site de publication de vidéos en ligne chinois a un contrat de 120 millions de dollars sur 10 ans jusqu'en 2027.
Isabelle Langer du service des sports d'RTL. Un tout petit mot de rugby, Pascal, pour vous dire que le 15 de France retrouvera son habituelle charnière toulousaine formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack pour le choc de samedi face à la Nouvelle-Zélande. On le rappelle, c'est à 21h samedi donc au Stade de France.
Merci Amandine. Dans une seconde, la crise qui secoue Ascoval avec Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise, en appel au gouvernement.
RTL Midi. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Pour moi, c'est un vol en bande organisée. On produit de l'électricité, putain, on le taille plein pot. Si maintenant, après le COP26, on fait différemment, c'est qu'en fait, tout est bidon, tout est mensonge. On peut dire ce qu'on veut, réchauffement climatique, Mais derrière, il n'y a rien qui se fait.
Nassim Bardier, délégué CGT chez Ascoval. Comme l'ensemble des salariés, ils ne décolèrent pas depuis hier et l'éventuelle délocalisation de la production d'une partie de cette aciérie. La direction envisage en effet de produire en Allemagne sur des sites plus polluants, car ils utilisent du charbon, mais moins coûteux. C'est la conséquence de la flambée des prix de l'électricité. Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, député de la France Insoumise du Nord et coordinateur chez LFI. Vous appelez aujourd'hui le gouvernement à intervenir dans cette affaire.
Évidemment, et je vais vous dire très franchement, j'ai entendu ce matin la réaction de la ministre de l'Industrie chez vos confrères de France Info.
Agnès Pannier-Runacher.
Et je me suis posé la question de savoir si cette femme était vraiment ministre de l'Industrie, parce que c'était d'une nullité, d'un vide absolu. Elle était là, les bras brinque-ballant, finalement, disant que la situation était comme ça et qu'on n'y pouvait pas grand-chose.
Alors, elle
si
explique...
le gouvernement...
Elle explique que le contrat avec EDF, entre Ascoval et EDF, va changer au 1er janvier autour d'un coût de l'électricité, dit-elle, stabilisé. Ça suffit pas?
Bon, d'abord plusieurs choses, parce que là, j'engage pas une discussion avec la ministre. Je m'adresse à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Le dossier est un peu compliqué. L'aciérie de Saint-Saulve et celle de Trie-Saint-Léger, Ascoval, c'est une entreprise pour laquelle on s'est beaucoup battu pour pérenniser l'activité sur place. Vous vous en souvenez, ils produisent de l'acier et leur principal client, c'est la SNCF. C'est pour le rail de la SNCF. Et donc là, on nous dit qu'aujourd'hui, l'actionnaire allemand, parce que c'est un actionnaire allemand qui a repris... ce site.
Et c'est essentiel dans le dossier, évidemment, qu'il soit allemand, cet actionnaire, ce qui, pour le gouvernement, est sans doute plus compliqué à intervenir.
Si vous pouvez juste me laisser terminer mon développement, un instant. Donc je disais, l'actionnaire allemand prévoit donc, sous couvert d'une hausse du tarif de l'énergie, et j'y viens, de faire partir 40% de la production actuelle en Allemagne, sachant que sur place, et on peut s'en réjouir, les carnets de commandes sont archi pleins. Donc là, on prévoit de partir en Allemagne pour 40%, de mettre donc dès le mois prochain des salariés au chômage partiel, alors que le gouvernement aurait des leviers d'action. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut protéger notre industrie dans ce type de situation et assurer, on peut le faire, unilatéralement, un blocage des prix de l'énergie, exactement comme nous l'appelions de nos voeux il y a quelques semaines pour la hausse de l'énergie qu'ont à subir les particuliers. Ensuite, si toutefois la décision devait être confirmée de faire en sorte qu'il y ait 40% de la production temporairement assurée en Allemagne, alors je le dis, les salariés d'Ascoval, les salariés à Trie-Saint-Léger et à Saint-Saulve doivent être 100% indemnisés, zéro perte de salaire pour eux. Et ensuite, plus globalement, il faut comprendre que ce dossier est une énième occasion de mettre en cause le fiasco de l'ouverture des marchés de l'énergie. Le syndicaliste Nassim Bardi, que je salue à mon tour, le disait tout à l'heure très bien sur votre antenne. Pourquoi l'électricité augmente aujourd'hui? Elle n'augmente que pour des effets de marché, parce que le gaz augmente lui-même et que sous couvert des effets de marché, l'électricité est indexée sur le gaz. Ce qui veut dire que sans aucune réalité matérielle, si le gaz augmente, l'électricité par simple effet de marché augmente. Ça, c'est les belles trouvailles, vous savez, de la Commission européenne et de tous les libéraux qui se sont succédés avec elle ici en France pour nous vendre la formidable ouverture des marchés à la concurrence qui devait voir baisser les prix.
Adrien
Ils ont
Quatennens.
Mis un...
Désolé de vous interrompre.
Dans le marché de l'énergie.
On a peu de temps, juste pour qu'on comprenne bien, d'un point de vue purement, j'allais dire, de logique financière, on peut imaginer que, effectivement, c'est normal pour une entreprise d'aller produire là où ça coûte moins cher, qui plus est quand elle est allemande.
Ben là, vous ouvrez plusieurs sujets. D'abord, la première chose, je le redis, mais c'est important, il y a urgence à sortir l'énergie du marché. Et j'espère que l'élection présidentielle de 2022 permettra véritablement d'avoir un vrai débat sur ce sujet, parce que c'est un choix crucial. Ensuite, vous dites quelque chose là qui va sur un autre sujet, mais qui est très essentiel. Vous dites, finalement, une entreprise cherchera toujours à produire moins cher. Eh bien, nous croyons avec Jean-Luc...
Malheureusement, on ne sait pas en quoi vous croyez avec Jean-Luc Mélenchon. Et je dis, ouais, pas quelque chose de symbolique, bien sûr, Monsieur Quatennens, puisque c'est simplement une coupure technique qui ne nous aura pas permis de savoir en quoi vous croyez précisément. Merci néanmoins, Adrien Quatennens. Il est 12h50. Nous allons, dans une seconde, poursuivre les débats avec cette fois-ci. Faut-il pénaliser le harcèlement à l'école? À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Et direction ce collège du 15e arrondissement de Paris où l'on vous retrouve, Marie Guerrier. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous suivez Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est accompagné de Brigitte Macron en cette journée de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est surtout de cyberharcèlement dont il a été question.
Oui, et la vidéo qui, cette année, est le support de la nouvelle campagne de sensibilisation au harcèlement, porte justement sur les réseaux sociaux. Faisons des réseaux sociaux un endroit qui nous ressemble, parce que le cyberharcèlement blesse et parfois tue. Il faut donc que sur les réseaux sociaux, on puisse agir. Et Brigitte Macron a été interpellée par une élève de 3e, justement, ce matin.
On est sur ce sujet depuis 4 ans et demi, tout de suite. Monsieur Blanquer, la ministre, on en a discuté, il savait que j'étais prof, que j'avais une sensibilité sur le sujet. On se rend compte, plus on en parle, plus les langues se délient. Et plus on entend des choses, et plus des solutions se mettent en place. Et moi, quand je fais des communications, ben, les plateformes viennent vers moi. Ils ne sont pas très contents qu'on bouge. Mais c'est tout leur intérêt de bouger.
Voilà un dialogue en cours avec les plateformes de réseaux sociaux pour mieux contrôler les contenus. Et puis un numéro de téléphone, le 3018, si on est victime de cyberharcèlement, pour avoir des conseils, pour savoir comment signaler, comment bloquer, comment supprimer un contenu.
Merci beaucoup Marie. Mieux encadrer, mieux contrôler les contenus sur les réseaux sociaux, discuter, sensibiliser, voilà les grandes lignes de toutes ces mesures. Mais certains veulent aller plus loin. Bonjour Erwan Balanant.
Bonjour.
Vous êtes député MoDem du Finistère. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans RTL Midi. Vous souhaitez pénaliser le harcèlement scolaire. Vous avez d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens. Pourquoi et en quoi ça consiste ?
Alors, déjà, je ne vais pas plus loin que le gouvernement et que Brigitte Macron, parce qu'on va ensemble. On va ensemble au même endroit et c'est complémentaire. Sur le harcèlement, il y a trois niveaux. Il y a le niveau de la prévention, il y a le niveau de l'accompagnement et il y a le niveau de la protection. Et aujourd'hui, moi, j'ai constaté, suite à mon travail et à mon rapport qui m'avait été demandé par Édouard Philippe en 2020, qu'il y avait des lacunes législatives. Et on n'avait pas de définition claire et précise de ce qu'est le harcèlement scolaire dans le code pénal. Donc, je souhaite l'inscrire dans le code pénal, mais je souhaite aussi l'inscrire dans le code de l'éducation. Et donc avoir une affirmation forte et puissante d'un droit à la scolarité.
Mais très concrètement, ça changerait quoi ?
Ah ben, ce que ça change, c'est que l'inscription d'un droit à une scolarité sans harcèlement, qui est déjà inscrite mais que l'on fortifie, permettra de protéger les enfants dans leur apprentissage, les protéger contre leurs camarades, mais aussi parfois les protéger contre certains adultes qui pourraient faire des erreurs ou des fautes vis-à-vis de comportements qui ne sont pas appropriés et qui sont des propos ou des comportements harcelants. Et ça nous permet de créer une nouvelle qualification pénale. Ça va aussi nous permettre de donner des obligations de modération et de régulation aux plateformes. Et tout ça est complémentaire avec le travail de prévention, le travail d'accompagnement qui est fait par les pouvoirs publics et par le gouvernement depuis maintenant 5 ans.
Une nouvelle qualification pénale, c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, de 12 ans, qui est en 6e ou en 5e, qui harcèle un de ses petits camarades, pourrait être jugé devant je ne sais quelle juridiction, d'ailleurs, pour harcèlement, c'est cela ?
Alors, non, pas tout à fait, parce que vous savez qu'en France, on a un code de justice pénale des mineurs qui décide avant de juger si un enfant est discernant ou pas. Et donc, évidemment, ça correspond. Le code pénal, il est très précis. Et quand vous êtes un enfant de moins de 15 ans, vous n'êtes pas jugé de la même façon que quand vous avez plus de 15 ans. Mais le code pénal a une valeur de définition d'un interdit qui est extrêmement importante et qui est nécessaire pour faire de la pédagogie derrière quand vous expliquez à un enfant.
C'est-à-dire qu'on ne poursuivrait pas le harceleur, si je comprends bien, mais le harcèlement serait dans le code pénal.
Alors, il pourrait le poursuivre, évidemment, mais il faut savoir quelque chose qui me semble assez évident, c'est que quand on arrive sur une judiciarisation d'un fait de harcèlement scolaire...
Ça dissuade.
Oui, et puis surtout, c'est un constat d'échec du système. Et donc, il faut à tout prix l'éviter. Je vous dis, il faut être autour du triptyque prévenir, accompagner, protéger. Et c'est comme ça que l'on avancera. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un électrochoc. Vous savez, dans les années 2000, le harcèlement au travail n'existait pas dans le code pénal, non. Et à partir du moment où on l'a inscrit, il y a eu une prise en compte de la société. Et le code pénal engage la société. Elle engage tous les citoyens à être vigilants et à respecter les interdits.
Eh bien, on a bien compris, effectivement, dans ces cas-là, l'objectif de l'inscrire dans le code pénal et la pédagogie qui pourrait suivre. Merci, monsieur Balanant. On va marquer une pause avant de retrouver les auditeurs, mais c'est une occasion, une nouvelle fois, de saluer toute l'équipe du 12h30, Ludovic Van de Kerckhoff, qui est là, associé évidemment à cette montée en puissance du 12h30 d'Amandine. Sophie Orange est souvent là également pour la rédaction en chef. Et puis Damien Béchiot, l'équipe de Nathan qui est là. Et bien sûr Laurent Tessier, très présent lui également dans la fabrication des auditeurs ont la parole. À tout de suite. RTL Midi.